François Bezflug, les chrétiens ont eu l'habitude de représenter Dieu comme un vieillard, Dieu le Père, ou le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Aujourd'hui, ces images sont sujettes à une critique assez violente. Comment peut-on accepter que justement que l'on puisse représenter Dieu comme un vieillard ou Dieu l'Esprit comme une colombe?
Ça n'a pas tout de suite, dès les départs du christianisme, été le cas. Je me permets de corriger un petit peu ce que vous disiez à l'instant. Les chrétiens se sont effectivement habitués à ce qu'on représente Dieu le Père et puis la troisième personne du Saint-Esprit, la Trinité, sous la forme d'une colombe, seulement à partir du second millénaire de l'ère chrétienne. Et à l'époque, ça a été accepté, je crois, autant par les artistes que par les hommes d'église, du fait d'une sorte de besoin de visibilité de Dieu qui s'était fait sentir dans le peuple chrétien et qu'on repère aussi dans d'autres domaines comme la liturgie. C'est une époque qui voit, par exemple, la création de gestes nouveaux, l'élévation, la création d'ustensiles nouveaux, l'ostensoir, la création de fêtes nouvelles, la fête Dieu, la procession de la fête Dieu. Tout cela manifeste, si vous voulez, dans le peuple chrétien un grand désir de voir Dieu, d'avoir quelque chose pour les yeux lorsque l'on pense à Dieu. Et c'est dans ce contexte que les enlumineurs, les miniaturistes, un peu après les sculpteurs, un peu après encore la peinture, ont pris sur eux, d'une certaine manière, de figurer Dieu en vieillard. Très très vite, il a été représenté en vieillard, homme très âgé. Petit à petit, on lui donnera une calvitie. Petit à petit, on le dotera d'une couronne, voire d'une tiare. Bon, c'est comme ça qu'il va symboliser l'éternité de Dieu, sa paternité, sa providence, etc. La colombe du Saint-Esprit, c'est très différent. Elle est traditionnelle quasi depuis les débuts de la représentation chrétienne. De ce point de vue-là, je dirais que Dieu le Père, ou Dieu le Père en vieillard, est beaucoup plus jeune que la colombe du Saint-Esprit.
Bon. Et plus traditionnel aussi.
Et beaucoup plus traditionnel, et d'une certaine manière, si vous voulez, beaucoup plus légitime, dans la mesure où il y a des récits dans l'Évangile, en particulier le récit que les synoptiques nous donnent du baptême du Christ, qui parle expressément de la descente sur Jésus de l'Esprit comme
sous la forme de colombe.
Bon. Alors, en ce sens-là, si vous voulez, la représentation du Saint-Esprit colombe a une base dans l'Évangile. La représentation de Dieu en vieillard, me direz-vous, on a une aussi, puisqu'on parle de lui comme le Père de Jésus.
Bon. Et le Père n'est pas nécessairement un vieillard.
Premièrement.
Un vieillard pourrait être un grand-père et non pas un père.
Absolument, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Et on peut se demander si, pour symboliser la paternité de Dieu, le moyen le meilleur était de nous le représenter en vieux bonhomme. Et en particulier en vieux bonhomme très jupitérien d'allure. Ça, par contre, ça n'a pas, si vous voulez, d'été dans l'Évangile.
Alors, d'où ça vient?
Alors, d'où ça vient? Donc, ça vient d'une certaine liberté des artistes, fort peu accompagnée, en dépit de ce que l'on raconte, par les théologiens, qui n'ont pas toujours été bien formés, si vous voulez, pour savoir quels étaient les intérêts de l'Église en matière d'image. Ça vient d'un besoin de voir du peuple de Dieu, et ça vient aussi, petit à petit, et indirectement, des contestations que les pré-réformés et les hérétiques en général ont fait de l'image. Je m'explique, les Bogomiles, les Wyclefistes, les Hussites, puis les réformés...
Ce sont des gens que je ne fréquente pas, remarquez bien.
Ils ont eu leur poids, vous savez, dans cette histoire. Et d'une certaine manière, même si vous ne les fréquentez pas, il faut compter avec eux dans toute cette histoire de Dieu le Père en vieillard. Mmh. S'ils n'avaient contesté aussi violemment cette image, l'Église catholique ne l'aurait probablement pas justifiée comme elle l'a fait.
Oui. Enfin, il y a quand même un problème au point de départ. C'est comment peut-on représenter Dieu? Et comment peut-on représenter Dieu dans une religion qui est greffée sur le judaïsme et qui refusait toute représentation de Dieu?
C'est un problème qui n'est pas ressenti comme un problème pendant des siècles, parce que les théologiens expliquent que le propos pour un artiste de représenter Dieu est particulièrement aberrant. Si l'on admet que tout ce que Dieu à de visibles. Il nous l'a donné, une fois pour toutes, en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voulez aller encore chercher, comme dans les coulisses de Jésus-Christ, un supplément de visibilité pour Dieu ?
Et encore, on n'a pas de portrait de Jésus.
Ça, les points de vue diffèrent là-dessus. Je crois que la tradition orthodoxe tient que l'on a une sorte de tradition fidèle de ce qu'ont été les traits de Jésus depuis l'origine. Bon, se greffe là-dessus leur conception de la sainte face, leur conception du mandilion, leur conception du suaire. Bon. Pour les occidentaux, c'est un peu différent. Par exemple, quelqu'un comme saint Augustin, et avec lui un certain nombre de pères latins, doute que l'on ne conserve la mémoire, si vous voulez, de ce qu'aura été physiquement Jésus. C'est pourquoi très très vite, dans l'Occident, Jésus est représenté à peu près sous toutes les formes et à tous les âges. On le représente aussi bien en jeune Apollon qu'en homme mûr, voire parfois en vieillard. Il y a d'ailleurs de nombreux apocryphes qui nous racontent des apparitions du Christ à tous les âges possibles et imaginables, comme pour préserver sa transcendance. Se lier à une représentation, d'une certaine manière, c'est se condamner à une certaine oblitération, si vous voulez, de la divinité. Alors, Jésus, à ce titre, si vous voulez, nous représente toutes les formes pour qu'on ne l'identifie à aucune.
Mais je reviens à ma question, n'est-ce pas ? Est-ce que quand même il n'y avait pas cette interdiction dans la religion biblique ?
Absolument.
De représenter Dieu. Alors, qu'est-ce qui a permis tout à coup, n'est-ce pas, que l'on transgresse cet interdit, et que, ailleurs que, alors que d'autres interdits n'ont pas été transgressés?
Alors, je confirme tout à fait ce que vous venez de dire. Il y a un interdit strict de la représentation de Dieu chez les Juifs qui a, c'est remarquable, toujours été respecté. Il y a eu des débats ces derniers temps tout à fait amusants. Les archéologues ont retrouvé des pièces avec des portraits d'Yahvé. Bon, ça a été démonté comme une supercherie. Ils n'ont jamais représenté Dieu.
Il suffit de savoir que Dieu existe.
Il suffit surtout d'être fidèle à son alliance et d'observer ses commandements. Hein. Point à la ligne. Bon. Alors pourquoi les chrétiens qui sont effectivement branchés sur le tronc judaïque ont-ils pris la liberté ou accordé la liberté de représenter Dieu au nom des visions que Dieu avait accordées aux prophètes et au nom aussi de l'incarnation? Ils ont fait le raisonnement suivant, les théologiens et les pasteurs, pas tous, mais enfin une bonne partie d'entre eux. Tant que Dieu ne s'était pas révélé totalement Jésus, tant que Dieu n'avait pas pris chair en Jésus, alors effectivement on ne pouvait pas voir Dieu. Mais à partir du moment où Dieu s'est incarné, alors l'interdit de la figuration, l'interdit juif de la figuration, d'une certaine manière, est levé, si vous voulez. L'incarnation a été comprise comme la fin d'une interdiction. Bon, et c'est pourquoi, à partir de là.
Et pas simplement l'interdit de représenter Dieu, mais aussi le lever d'interdiction de beaucoup d'autres choses, comme par exemple de manger les viandes dites interdites, etc.
Donc, absolument.
L'incarnation est une levée d'interdit.
L'incarnation représente une mutation profonde de la ritualité, d'un certain nombre d'interdictions ou au contraire de préceptes, et de certaine manière est un grand chamboulement. On peut comprendre, si vous voulez, que ce chamboulement se soit étendu au domaine de la figuration. Personnellement, je voudrais exprimer une sorte de désaccord, si vous voulez, avec cette manière de comprendre l'interdiction comme une levée de l'interdit de Dieu, de l'interdit de figurer Dieu. Parce que, pour moi, l'incarnation, ça n'est pas la fin d'un interdit, c'est l'accomplissement, le point d'orgue, la clé de voûte d'une histoire des manifestations de Dieu. Dieu nous donne tout ce qu'il a à montrer, tout ce qu'il a à dire en Jésus. Par conséquent, on peut y voir le couronnement de toutes les théophanies de l'Ancien Testament et aussi le couronnement de toutes les apparitions qui suivront dans l'histoire de l'Église. Mais c'est pas pour cela qu'il y aurait à chercher derrière la figure de Jésus une réserve de spectacle. Vous voyez ?
Mais alors justement, à partir de là, comment vivre avec toutes ces images qui souvent actuellement apparaissent à beaucoup de nos contemporains plutôt comme des obstacles? On peut entendre même des gens, des intellectuels dire, mais comment puis-je croire à un Dieu qui serait un vieillard barbu? Comment puis-je croire à une colombe, à un pigeon, enfin un oiseau, n'est-ce pas? Tout ça apparaît absolument comme fantaisiste et d'un imaginaire même désuet.
Il n'y a pas à croire à un vieillard barbu, en tout cas ça n'est pas mon Dieu. Il a été critiqué par beaucoup, et je me range, si vous voulez, parmi ceux qui se sent tout à fait libre vis-à-vis du vieux potentat. Bon. Et d'ailleurs, l'Église, il faut lui rendre cette justice, a toujours souligné que ce vieillard barbu ne devait pas faire croire que Dieu était comme cela, si vous voulez. C'était simplement le souvenir que la tradition de l'Église nous proposait de la forme sous laquelle il était apparu au prophète. Bon, c'est trop compliqué pour que tout le monde comprenne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont effectivement, dans leur imaginaire, c'est-à-dire la part un peu archaïque d'eux-mêmes, identifié Dieu à ce vieillard. Mais il faut en faire la critique tout à fait radicale, et s'en libérer, je crois, et repenser avec ferveur et résolution que Dieu est transcendant, c'est-à-dire qu'il dépasse et laisse loin derrière lui, d'une certaine manière, toutes ces imageries qui sont complètement régressives. Bon. On doit le faire, à mon sens, avec un minimum de sympathie, pour la bonne raison que non seulement ces figurations ont suscité de la part des artistes des œuvres qui sont grandes, mais aussi parce que beaucoup de générations de croyants avant nous ont vécu leur relation à Dieu dans ce décor. Et ça, si vous voulez, c'est respectable, et c'est aussi pour nous une question. Est-ce que dans notre relation à Dieu, nous sommes honnêtes lorsque nous disons que nous allons désormais nous passer de toute image ?
Mais il me semble que justement, enfin, ce Dieu transcendant, encore peut-il s'exprimer par une parole, peut-il s'atteindre, se circonscrire par une certaine parole qui est toujours un discours négatif, n'est-ce pas? Mais comment peut-on en parler avec des images qui, elles, ont une réalité matérielle?
Permet là aussi de dire quelque chose, c'est que le discours sur Dieu n'est pas toujours et à tout moment négatif, c'est-à-dire il y a, à propos de Dieu par exemple, dans la Bible, un certain nombre d'images. C'est ce que l'on pourrait appeler le temps du positif. Bon. Il est source, il est roc, il est appui, il est père, il est mère.
Oui, mais
d'ailleurs,
images justement qui se contredisent et qui permettent justement de montrer quelque chose. Or, source, donc élément aqueux, élément fluide, roc, élément solide, n'est-ce pas? Alors cette espèce de négation des images permet justement au discours de passer et d'affirmer la transcendance.
Mais elles se contredisent si on les comprend de manière, si vous voulez, assez rationaliste et cartésienne. En fait, chacune d'elles est chargée de dire quelque chose de Dieu, et pas tout. Quand je dis roc, je dis que Dieu est fidèle, d'une fidélité indéracinable qui ne bougera pas. Quand je dis source, ça veut dire que toute vie, tout rafraîchissement viennent de lui. Bon, ça ne vient pas contredire ce que je viens de dire de lui quand il est dit roc. Bon. Et ce qui est intéressant avec les images, justement, c'est qu'elles forment une sorte de constellation, un peu comme un ciel. Elles se complètent, elles font du dessin. Bon. Et c'est alors qu'arrive le temps de la négativité, c'est que, quelle que soit la subtilité de ce dessin complexe que les images de la Bible donnent de Dieu, Dieu est encore au-delà. Alors là intervient le temps du discours négatif, Dieu est encore au-delà, bien au-delà, beaucoup plus somptueusement mystérieux, somptueusement donateur de sens, somptueusement secret, que toutes ces images le laisseraient
oui,
entendre.
Mais encore une fois, ce sont des images littéraires, c'est des images de rhétorique, ce ne sont pas des images figuratives, des images d'art visuel. Et l'art, est-ce que ces images-là, justement, d'un art visuel, sculpture, peinture, ou quelque forme que ça puisse prendre, que ces images-là ne risquent pas de nous plonger en pleine idolâtrie et en plein discours faux sur Dieu?
Ça a été le discours tenu par les réformés qui ont dit ces images vont être comprises par la grande majorité du peuple des fidèles comme des représentations de Dieu, des représentations descriptives de Dieu. Elles vont donc entraîner un rapport faux à Dieu, faire croire de lui qu'il est à l'image d'un homme, et entraîner de l'idolâtrie.
Et avant les réformés, les iconoclastes.
Et avant, non, parce que les iconoclastes n'ont pas eu, d'une certaine manière, à exercer leur agressivité vis-à-vis des images de Dieu. Elles n'existaient pas. Ou si elles ont existé, il en a existé de très très rares, que les pères, les évêques, les prêtres ont aussitôt critiqué et supprimé. On a de bonnes raisons de penser que les figurations de Dieu le Père se comptent sur les doigts d'une main avant l'an 1000.
C'est donc les représentations de Dieu le Père ne viennent qu'après oui. l'an 1000. Oui. Alors, les iconoclastes, contre quoi étaient-ils, eux, exactement?
Alors, les iconoclastes étaient contre, non pas les images, mais leur vénération. Et alors c'était quoi? C'était des images du Christ, de sa mère, des saints, qui était en bonne place, si vous voulez, dans les églises, et qui entraînait, bien entendu, un certain nombre de comportements de dévotion. On s'inclinait devant elle, on mettait éventuellement des bougies, et on les vénérait, on les portait en procession, et c'est contre cela que les iconoclastes se sont élevés avec une très grande vigueur, faisant valoir que du vrai Dieu ne devait pas exister d'image, et pas non plus du Christ et de ses saints, si vous voulez. Parce que il y avait automatiquement dans la grande masse des fidèles des comportements qui étaient idolâtriques, comme vous disiez.
Mais est-ce que précisément dans l'Église d'aujourd'hui, est-ce qu'on n'assiste pas à la victoire des iconoclastes et des réformés? Enfin, nous, on le dit, n'est-ce pas, nos églises ont été vidées des images des saints, et il n'y a plus d'images religieuses dans la vie des chrétiens aujourd'hui.
On a dit cela il y a quelques dizaines d'années, lorsque la revue L'Art Sacré, puis un certain climat d'église au tournant des années 60-65, Vatican II, mai 68, a provoqué un grand remue-ménage dans les sacristies, dans les églises. Les curés ont procédé par le vide, ont mis au rancard un certain nombre de statues, de tableaux, et on a crié à la protestantisation de l'Église catholique. Bon, je crois que depuis, on en est bien revenu. Si vous observez ce qui se passe, petit à petit, des œuvres d'art rentrent dans les églises, du moins en France. Et surtout, on assiste au phénomène tout à fait surprenant de la redécouverte à grande échelle de l'art de l'icône. Je crois que, par exemple, la Trinité de Roublev, ce qu'on appelle comme cela, est en bonne place dans des oratoires, dans des chœurs d'église, des chapelles de prière. On ne les a pas dénombrés, mais c'est tout à fait extraordinaire.
Comment vous expliquez justement tout à coup cette apparition, en fait, dans l'Église occidentale, d'un art qui ne doit rien à la tradition occidentale et qui est lié au contraire à une spiritualité très précise, celle de l'Église orthodoxe, celle de l'Église orientale?
Plusieurs facteurs, à mon avis, ont dû jouer leur rôle. D'abord, l'usure des images de Dieu telles que nous les décrivions il y a un instant. Ce sont des images qui se sont affaissées, vous savez, comme un soufflé au fromage. Il n'y avait plus rien, ça ne tenait plus. Bon, ça fait un grand vide. Je crois aussi qu'il y a eu une vague, si vous voulez, de fatigue, de dégoût pour le Saint-Sulpice, pour l'art, même pour l'art baroque, qu'on a jugé trop pompeux, théâtral, voire pompier. Alors, il y avait un vide. Alors, de ce point de vue, si vous voulez, la redécouverte de l'icône pourrait être interprétée comme une sorte de phénomène compensatoire. Bon, il n'y a pas que cela. Je crois aussi que l'écuménisme a beaucoup favorisé une sorte de curiosité sympathisante avec la patristique, avec l'art de l'icône, qui tiennent étroitement l'une à l'autre. Et enfin, je crois qu'il faut reconnaître aux icônes une sorte de force de persuasion, de savoir-faire, pour communiquer une perception très vive, ecclésiale, liturgique de la transcendance, de l'action de Dieu dans l'histoire, de la sainteté, de sa gloire déjà.
Ce que n'ont pas les images créées par les artistes occidentaux, fussent-ils parmi les plus grands.
Je ne serais pas aussi systématique, parce qu'il y a de très grandes œuvres d'art. Je pense par exemple à Rouault. Il y a des tableaux de Rouault qui ont, je trouve, une teneur en transcendance et même en sens ecclésial qui sont extraordinaires.
Bon. Peut-être plus ces tableaux, je dirais, païens que ces tableaux religieux. Je trouve qu'un clown de Rouault, ça dit parfois plus que certaines images qui sont encore, enfin, qui sont devenues un peu bondieusardes.
Ça ne dit pas la même chose. Un clown de Rouault peut très très bien être animé d'un sens très vif de l'existence humaine et de ce qui, dans l'existence humaine, d'une certaine manière, est ouverture à l'accueil du sens, du don, du mystère. Mais il ne le dira pas avec le lexique iconographique d'un portrait, si vous voulez. Ce sont deux œuvres qui peuvent témoigner chez leur auteur d'un même doigté, d'une même perception de la transcendance, mais elles emploient des langages différents. L'une a un thème qui n'a aucun rapport avec l'enseignement de l'Église, ou un rapport très marginal, et l'autre, évidemment, a un thème qui est au centre de la prédication de l'Église. Alors forcément, leur langage, leur construction comme peinture diffère. Et par conséquent, ce qu'elles énoncent, si tant est qu'on soit autorisé à parler de l'énoncé d'une peinture, diffère également.
Mais comment expliquez-vous que, par exemple, le Concile de Trente, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, a pu créer un art, engendrer un art, une expression artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin, il a été moteur de création.
On en discute beaucoup, vous savez, chez les historiens de l'art, parce que...
Oui, mais permettez-moi de terminer la question, mais le Vatican II, lui, ne semble absolument avoir rien généré,
n'est-ce pas, artistique. Oui, je suis d'accord avec vous. On a même pu écrire un article qui s'appelait « Une oubliée du Concile Vatican II, l'icône ». On pourrait presque dire, je crois, sans grande injustice, un oublié de Vatican II, l'art religieux. Bon. Il se trouve dans la Constitution sur la liturgie un passage explicite, et d'ailleurs assez dense, sur l'art religieux. C'est très peu. C'est très très peu. Les papes avant Vatican II et les papes après Vatican II s'en sont constamment souciés. Et pas simplement d'ailleurs de l'art religieux, mais aussi du cinéma, de la télévision et bientôt des vidéos. En revanche, le Concile Vatican II n'a absolument pas eu le rôle vis-à-vis de l'art sacré qu'aura eu le Concile de Trente et avant le Concile de Nicée II. Ça, c'était évident.
Mais alors, comment vous expliquez ça? Comment expliquez-vous justement que ce discours religieux actuel ne soit plus stimulant pour des créateurs?
Vous me demandez d'expliquer beaucoup de choses au cours de cet entretien. Je ne peux pas tout expliquer. Et en particulier, pourquoi Vatican II n'a pas conçu comme de sa mission, et d'une mission urgente, de réfléchir aux liens qui existent ou doivent exister entre la mission de l'Église, qui est de transmettre l'Évangile, et puis les langages d'image. Bon, moi je n'étais pas au Concile Vatican II. Je ne peux formuler des hypothèses, si vous voulez. Bon. Je crois, à titre d'hypothèse, que l'Église a fort peu réfléchi aux lois qui sont celles des langages d'image. Je dis bien fort peu, du moins en Occident. Elle a beaucoup défendu les images contre les réformés et tous ceux qui les attaquaient. Elle n'a pas, ou très rarement, fait la théorie, analysé les avantages, pensé et formulé les fins des langages d'image dans sa pratique à elle. Très peu. Et je crois que Vatican II s'inscrit en fait dans une tradition d'Église qui a beaucoup plus, si vous voulez, de pratiques qu'elle n'a de théorie et de réflexion sur ce sujet. Alors le Concile, il a laissé faire, il a donné quelques encouragements, quelques vagues consignes, et puis c'est tout.
Et pourtant, on trouve actuellement, partout dans les librairies, des Bibles en bande dessinée, en fait, au moins des fragments de la Bible en bande dessinée,
dont
etc.
très peu relèvent de l'initiative ecclésiastique. La plupart ont été entreprises à l'initiative de grandes maisons d'édition qui ont vu là, comme on dit très vulgairement, un créneau profitable et alors qui ont mis au travail une équipe de maquettistes, non sans s'aider d'un théologien et d'un exégète. Mais ça n'est pas l'Église qui est à l'origine de ces projets. Et d'ailleurs, vous savez, cet exemple sur lequel nous parlons est la répétition de périodes entières de l'art religieux où la part d'initiative de l'Église est bien moins considérable qu'on ne l'a cru.
Mais il reste qu'à un certain moment, l'Église s'est prononcée sur ces images. Oui. Vous-même, vous avez fait un travail encore récemment, Dieu dans l'art, où vous montrez bien comment tout à coup l'Église intervient et réglemente la représentation.
Elle est obligée d'intervenir parce que les images sont contestées et que cela provoque parmi les chrétiens un trouble considérable. Vous savez, quand des troupes armées sillonnent une zone géographique, vous allez dans le nord de la France, le sud des Pays-Bas, etc., et sort tout ce qu'il y a dans les églises, casse, brûle, jusqu'à jeter des cordes autour des statues pour les faire tomber, naturellement, ça provoque une sorte d'incertitude, de grand trouble parmi les populations. Alors, l'Église réagit en rappelant qu'il est parfaitement légitime d'avoir des images, de les fabriquer, de les exposer dans les églises, de les vénérer, etc. Vous voyez ? Mais ce sont des comportements, j'allais dire, de défense. Ils sont réactifs. Souvent, on croit que les théologiens ont contrôlé toutes les œuvres d'art, que l'Église a commandé ceci et cela. Oui, il y a des cas, il y a même pas mal de cas où les théologiens ont contrôlé et où les hommes d'Église ont commandé. Mais il existe un nombre beaucoup plus considérable de cas où l'Église n'a rien commandé, les théologiens n'ont rien contrôlé.
Mais je vais vous poser une question peut-être un peu philosophique, mais quand même, est-ce que les chrétiens, enfin le message chrétien, est préoccupé par la beauté comme il semble l'être constamment par le bien? Le discours chrétien semble toujours être un discours moral, éthique, tu feras ceci, tu ne feras pas cela, mais semble absolument avoir oublié la beauté dont Dostoïevski pourtant oui. disait qu'elle sauverait le monde.
J'aime bien votre mot préoccupé, parce qu'il est très juste. Bon. Je crois qu'effectivement les chrétiens sont préoccupés par la beauté, mais au sens aussi où ils en sont un peu inquiétés. Parce que la beauté... du fait, si vous voulez, de sa séduction, de son rayonnement silencieux, de son pouvoir attractif, inquiète et a inquiété en tout cas un certain nombre de gens, de spirituels, de traditions ascétiques. Bon.
Et longtemps, le Christ qu'on représente, c'est le Christ flagellé, couvert d'opprobre, etc. Beaucoup moins que le Christ séduisant.
Oui, alors là, vous vous référez à une tradition médiévale. Oui. Ce sont les Christs, vous savez, qui, pendant la grande peste, pendant les épidémies, les famines, les séditions, les réformes, sont des Christs pathétiques, pathétiques et même parfois insupportables à regarder. Bon, il y a eu tout de même des Christs d'une très grande beauté. Par exemple, songez à des Christs romans. Quand on va au musée d'art catalan de Barcelone, on découvre avec stupéfaction que les crucifix, par exemple entre le 9e et le 13e siècle, sont des crucifix somptueux, où le Christ étend les bras et vêtu d'une sorte de costume royal, ouvre les yeux, mais comment dire, rayonne de vie, parce que déjà sur la croix il est victorieux, et il n'y a aucun dolorisme, et pas même une trace de douleur dans ces Christs-là. Et là, on voit que c'est la beauté, de le resplendissement de la gloire du Père qui est sur la face du Christ en croix, qui est la pensée directrice des artistes. Ce n'est pas du tout un Christ qui souffre le maximum de ce qu'un homme peut souffrir, pas du tout.
Alors j'en reviens à ma question, qu'est-ce que les chrétiens ont à dire sur la beauté? Pourquoi la beauté leur fait-il peur?
Je crois que les chrétiens doivent vivre une réconciliation paisible avec la beauté. Ils en ont besoin. Quelqu'un de très considérable a dit que la beauté sauvera le monde. Et j'aime beaucoup ce passage que le Concile, au moment de sa clôture, a adressé aux artistes et au-delà des artistes, au monde. Ça se trouve dans les messages au monde. Et dans ce passage, le Concile dit ceci, qui me paraît extraordinaire dans la tradition catholique: nos contemporains ont besoin de beauté, car faute de beauté, ils tomberont dans la désespérance. Je ne me souviens plus les mots exacts, mais la pensée est celle-là. Par conséquent, l'Église catholique, telle qu'elle s'est exprimée solennellement à Vatican II, a demandé aux artistes de mettre de la beauté, de la belle beauté en circulation. Et ils ont demandé que l'on reconnaisse là un besoin absolument essentiel au fait d'exister homme et femme.
Oui, mais il ne suffit pas de le demander.
Ah, c'est pas mal, vous savez, c'est pas mal dans la tradition catholique. Et déjà que dans sa plus haute autorité, si vous voulez, l'Église le demande, ça suppose qu'elle invite aussi, je crois, tout chrétien à regarder de quelle nature est le conflit qu'il pourrait avoir avec la beauté. Et à faire un peu son examen de conscience. Là, il y aurait beaucoup à dire sur des traditions qui ont rendu suspecte la beauté.
Mais il y a quand même aussi toute une pratique à inventer.
Il y a une pratique à inventer, il y a une sagesse à inventer. Et il y a, en fonction de cette sagesse, une sorte de critique de nos genres de vie actuels. Consentir à ce que notre existence soit individuelle, soit communautaire, soit laide, à mon avis, est un manque à la charité avec un grand C. Si il est vrai, comme le Concile le rappelle, que nos contemporains ont besoin de beauté, leur donner à la place des laideurs, c'est faire ce que l'Évangile décrit comme donner des pierres là où on a besoin de pain. Je crois qu'il faut que les chrétiens assument leur responsabilité, et chacun en a une, dans la création d'une beauté coproduite en communauté.
Et dans tous les domaines de la vie.
et dans tous les domaines de la vie. J'espère que nous allons rompre avec des traditions un peu misérabilistes où, pour passer un bon chrétien, il faut être un peu sale, un peu mal habillé. J'espère. Et j'espère aussi que les églises vont avoir le souci, si vous voulez, d'une sorte de rayonnement et de joie dans la réserve et la retenue. Ce qui a, je crois, tué aussi la beauté chrétienne, c'est que du fait de son mariage avec une société, même un pouvoir politique, elle s'étalait, s'affaissait et devenait molle. Bon, il nous faut une beauté qui soit sobre, qui nous soit un peu diaphane et qui illustre, si vous voulez, cette espèce de joie très profonde de l'être, à être guidé par Dieu sans en faire une image ou un écran indigne de lui. Et il faut que la beauté dont les chrétiens ont la charge dise cela.
François Bessuet, je vous remercie.